France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Rosemary Kennedy, l'enfant caché de la plus célèbre dynastie des États-Unis. Des Kennedy, on a tout dit, tout écrit, tout filmé. Depuis près d'un siècle, les Américains ont fait d'eux leur famille royale en quelque sorte. Du père, Joseph Kennedy, homme d'affaires sans scrupules obsédé par la réussite, jusqu'à ses héritiers perdus. Une saga parsemée de romances et de scandales, de jeux de pouvoir et de tragédies. On pense à la mort du fils aîné pendant la guerre, aux assassinats de JFK et de Bobby, à la disparition de Kathleen dans un accident d'avion. Mais on a longtemps oublié l'histoire de Rosemary, la fille aînée du clan. Cachée aux yeux du monde, son destin est pourtant l'un des plus tragiques et des plus sombres de cette famille. Elle était belle, Rosemary. Elle avait du chien, de l'allure, mais elle était différente, souffrant depuis sa naissance d'un léger retard mental et de troubles de l'humeur. En grandissant, son caractère se révèle instable, rebelle. Et puis subitement, à l'âge de 23 ans, elle disparaît des photos, des esprits et des lettres comme si elle avait déjà trop existé. Durant une vingtaine d'années, personne ne sait où elle est, ni ce qui lui est arrivé, hormis son père, qui fit de Rosemary le secret le mieux gardé de la famille. Pas celui de son handicap, non, mais la façon dont il décida d'y faire face, la lobotomie. Notre invité aujourd'hui, Patrick Jeudy, auteur et réalisateur du documentaire « Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?» produit par Hauteville Productions en 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Margot Pinel, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Charles de Silla. Dimanche 5 octobre 1975, Chicago. La messe de 11h s'achève à la cathédrale Saint-Peter, au cœur du Loop, le quartier des affaires. Parmi les fidèles ce jour-là, Eunice et Rosemary Kennedy, sœurs de l'ancien président américain. Avant de partir, Eunice s'attarde quelques minutes dans le vestibule. Lorsqu'elle relève la tête, Rosemary est disparue. Affolée, elle fouille l'église avant de prévenir la police. Le lieutenant Localo, qui s'inquiète lui aussi, envoie immédiatement 50 de ses hommes arpenter le quartier, rue par rue, bloc par bloc. Un avis de recherche est même diffusé à la radio, qui dit « 57 ans, cheveux noirs, pantalon rouge, manteau blanc, démarche un peu hésitante ». Mais l'aîné des filles Kennedy reste introuvable. Rapidement, les médias entendent parler de la disparition de Rosemary. Peter Nolan, reporter pour la chaîne locale CBS, passe à son tour la vie au peigne fin. Avec son caméraman, il espère la retrouver avant tout le monde et tourner quelques images. Cela fait si longtemps qu'on ne l'a pas vue. 30 ans peut-être. Après 5 heures de recherche frénétique, bingo! Le journaliste l'aperçoit au coin de Monroe Street et de Michigan Avenue, à 5 blocs seulement de la cathédrale. Dans son livre témoignage, publié en 2018, il se souvient de cette rencontre.
Au fur et à mesure que le temps passait, on craignait une nouvelle tragédie pour la famille Kennedy. Et puis je l'ai vu marcher lentement devant l'Art Institute. Je me suis approché, l'air de famille était évident. Je lui ai demandé « Vous cherchez votre sœur ?» Mais il n'y a pas eu de réponse. Juste un regard lointain vers un autre temps, un autre lieu. « Vous cherchez Eunice ?» Elle a répondu « Oui ».
Au même moment, une patrouille repère la disparue, la subtilise à la curiosité du reporter et la conduit au poste de police auprès de sa sœur, Eunice. À leur sortie, une nuée de journalistes les attend, retenus par un cordon de sécurité. L'un d'eux parvient tout de même à prendre quelques clichés. On peut y voir Rosemary, vêtue de son long manteau blanc, la tête légèrement penchée, escortée par un policier et deux religieuses. Qu'a-t-elle fait pendant ces 5 heures de liberté ? Elle est incapable de répondre. Mais le reporter Peter Nolan a mené l'enquête. Dans ses mémoires, il raconte qu'elle serait entrée dans une salle de concert à l'Orchestra Hall de Chicago. La représentation était presque terminée, mais on l'autorisa à s'asseoir au fond de la salle. Il n'y avait pas grand monde ce jour-là, puis elle paraissait tellement perdue. Sa fugue terminée, Rosemary est renvoyée à Sainte Coletta, dans l'état voisin du Wisconsin, un couvent spécialisé dans l'accueil des handicapés mentaux, où elle vit cloîtrée depuis des années. D'ailleurs, quand ne l'avait-on plus vue ? Depuis le 1er juin 1940 exactement, date de sa dernière apparition publique. C'était il y a 35 ans à l'aéroport LaGuardia de New York. De retour de Londres, où son père est alors ambassadeur des États-Unis, Rosemary est attendue par sa petite sœur Jean et par son frère préféré John, surnommé Jack, bientôt connu dans le monde entier comme JFK. En robe à fleurs et chapeau à voilettes, elle pose pour les caméras, belle et assurée, le sourire éclatant. Rien ne transparaît alors de sa souffrance, de sa différence. Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?
Il faut bien avoir à l'esprit que la pierre angulaire de ce clan, c'est le père, Joe, Joseph Patrick Kennedy, le daron en chef.
Ainsi donc, si l'Amérique m'était comptée, elle ne pourrait éviter la story de celui qui a fait de sa famille une dynastie mythique, Joseph Patrick Kennedy, ce bon vieux Joe.
Vous avez reconnu bien sûr la voix de Philippe Collin de France Inter. On peut comprendre en effet la destinée des Kennedy, et en particulier celle de Rosemary, sans s'intéresser au patriarche, Joseph Patrick Kennedy, surnommé Joe. L'histoire de cet homme commence avec celle de son père, Patrick Joseph, fils d'un pauvre immigré irlandais installé à Boston. À force de travail et de sacrifice, il réussit à gravir les échelons, passant de tavernier du port à sénateur, carrément. Mais il ne parviendra jamais à intégrer la bonne société de Boston, anglo-saxonne et protestante, qui méprise ses catholiques descendants des Irlandais de la famine. La blessure restera profonde, et l'esprit de revanche gravé dans l'ADN de cette famille. Ce sera donc à son fils aîné, Joe, de réaliser l'exploit, genre « vous allez voir ce que vous allez voir », le fameux « fighting spirit » des Irlandais. Joe, le fils, comprendra très vite ce qui a toujours manqué à son père, l'argent et l'entre-gens. Éduqué dans les meilleures écoles, diplômé de Harvard, Joe, le père du futur président, débute une carrière dans la finance et épouse en 1914 Rose Fitzgerald, fille du maire irlandais de Boston. Un an plus tard, naît leur premier enfant, Joe Junior, suivi de John Fitzgerald, puis de Rosemary. Celle-ci naît le 13 septembre 1918 au domicile familial, dans la banlieue huppée de Boston. L'accouchement est difficile. Alors que le travail a déjà commencé, le médecin de la famille tarde à arriver. Dans l'attente, Rose, la mère, fait tout pour retenir l'enfant dans son ventre, privant ainsi son cerveau d'oxygène pendant de longues minutes. Est-ce cela qui peut expliquer le retard mental de Rosemary ? Un an plus tard, en effet, alors que Rose est à nouveau enceinte, elle remarque que sa petite-fille se développe très différemment de ses deux aînés. Elle le raconte dans ses mémoires, Le temps des souvenirs, best-seller publié en 1974.
Rosemary semblait en bonne santé et je ne voyais aucune raison de s'inquiéter. Cependant, elle avait du retard pour les étapes habituelles, ramper, se tenir debout, faire les premiers pas, dire les premiers mots. Je la trouvais spécialement maladroite pour tenir sa cuillère ou son assiette à bouillie.
Les difficultés de Rosemary ne disparaissent pas en grandissant. À l'école, elle peine à lire et à écrire. Des premiers examens font apparaître une déficience. Les médecins préconisent son placement dans un institut spécialisé. Mais les parents refusent. À l'époque, la plupart de ces endroits ressemblent à des lieux de cauchemar où l'on abandonne sans distinction fous, handicapés, alcooliques ou drogués. Joe veut croire qu'à force de travail et de discipline, une guérison est possible, que Rosemary parviendra à rattraper son retard. Mais d'ici là, personne en dehors de leurs amis intimes ne doit rien savoir. Avec son épouse, Joe essaie toutes les méthodes, tous les établissements. Entre 1929 et 1938, Rosemary est ballottée d'une école privée à l'autre, incapable de suivre, systématiquement renvoyée. Alors qu'elle a besoin de stabilité, ses changements en répétition aggravent ses sautes d'humeur et restreignent ses progrès. Elle trouve cependant du réconfort auprès de ses frères et sœurs, partage avec eux leur jeunesse dorée et trépidante, du moins en apparence. À New York, où la fratrie déménage en 1926, comme dans leur résidence secondaire de Yannisport, sur la côte Est, elle est de toutes les fêtes. Ceux qui la fréquentent à l'époque disent qu'elle est la plus jolie des Kennedy, malgré le charme malicieux de Kathleen et l'énergie débordante de Eunice et Cadette. Joe et Rose ont désormais 9 enfants, 4 garçons et 5 filles, éduqués comme on dirigerait une entreprise. Rose, la mère, catholique fervente, édicte des règles très strictes en matière d'hygiène et d'alimentation, impose à tous des régimes draconiens et cultive l'esprit de compétition en permanence. Et on l'imagine, et de la douleur qu'elle doit considérer comme rédemptrice à l'image de ses co-religionnaires. Joe également s'occupe beaucoup de ses enfants, comme le raconte l'historien Thomas Negaroff au micro de France Inter en 2014.
Oui, et c'est un peu une idée fausse qu'on a de lui. On imagine toujours le type un peu froid, qui pense qu'à l'argent, distant, etc. En fait, ça c'est plutôt Rose, hein, la mère qui est comme ça. On en reparlera peut-être, mais en tout cas qui a un rapport assez distant, en tout cas peu charnel avec ses enfants. Joseph, en revanche, effectivement, quand il est là, ce qui est pas toujours le cas parce qu'il travaille beaucoup, c'est un père très présent, qui adore prendre les enfants le matin dans le lit pour leur raconter des histoires. On n'imagine pas forcément ça. C'est quelqu'un qui appelle ses fils tout le temps au téléphone, ses filles aussi, qui fait du sport avec eux, qui regarde des films dans la... Vous savez, Yannisport, ils ont une salle de cinéma, il regarde des films avec eux, il regarde aux jumelles quand ils font du bateau. C'est un père extrêmement présent, extraordinairement respecté aussi, et qui fait régner un ordre à la maison. À la table des Kennedy, par exemple, c'était le grand silence. Le père, parfois, donnait la parole à un des enfants et disait « Qu'est-ce que t'en penses de ce problème international ?» Et l'enfant avait intérêt à avoir un avis. Donc il les a formés à la dure, un peu dans la peur, mais aussi dans l'amour.
La carrière du patriarche connaît une ascension fulgurante. Homme d'affaires prospère et sans scrupules, il s'enrichit année après année en investissant dans l'immobilier, les taxis, les mines, le cinéma. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est jouer en bourse, acheter des titres, en faire gonfler le cours et les revendre juste avant que la bulle n'éclate. Ce qui contribue à soi-dit au passage à provoquer le krach de 1929. Mais au-delà de l'argent, ce qui intéresse cet arriviste forcené, c'est le pouvoir. Aux élections de 1932, il contribue financièrement à la victoire de Roosevelt, dont il attend bien sûr un poste de ministre. En vain. La récompense arrive finalement 5 ans plus tard. En 1938, Joseph Kennedy est nommé ambassadeur des États-Unis à Londres. Un poste prestigieux alors que s'annonce un nouveau conflit mondial. Le 23 février 1938, le paternel embarque sur le Manhattan en partance pour l'Europe. Il est interviewé dès son arrivée par les journalistes de JB News.
A new ambassador to Britain, Mr. Joseph Kennedy. JB News interviewed him on his arrival at the American Embassy.
Just arrived in England after a very...
Je viens d'arriver en Angleterre. J'ai fait bon voyage depuis l'Amérique. Je suis impatient de prendre mes fonctions ici.
Et votre famille de 9 enfants, Monsieur Kennedy?
Ne voulant pas aggraver le problème du logement en Angleterre, ils n'arriveront pas tous ensemble. 5 au premier voyage, 2, puis 2.
2 mois plus tard, le 20 avril 1938, Rosemary, accompagnée de sa sœur Eunice, partent à leur tour pour l'Angleterre. Selon l'ambassadeur, elles terminaient leur année scolaire à Boston. C'est vrai pour Eunice, mais pas pour Rosemary, qui en vérité séjournait dans un hôpital pour suivre un régime strict. Sa mère avait exigé qu'elle perde 3 kilos avant de faire son entrée dans le grand monde. Elle a 19 ans et vivra à Londres ses plus belles années, ses dernières, avant la nuit noire. L'arrivée des Kennedy à Londres est un événement. Les magazines anglais se passionnent pour cette famille riche, belle et célèbre, incarnation à la fois du rêve américain et du glamour hollywoodien. « Nous avons droit à 11 ambassadeurs pour le prix de 20 », clament les journalistes, qui offrent à chaque petit Kennedy son heure de gloire. Pour Rosemary, ce sera le 11 mai 1938. Ce jour-là, elle et sa sœur Kathleen sont présentées en grande pompe à la reine Elisabeth lors du célèbre bal des débutantes. Resplendissante dans sa robe de tulle blanc brodée de paillettes, Rosemary apparaît radieuse, le regard vif et enjoué. À ses côtés, sa mère Rose retient son souffle. Le moindre faux pas pourrait révéler son handicap et briser sa réputation et celle de toute la famille. Mais la presse mondaine ne remarque rien, si ce n'est sa grande beauté. Après les vacances d'été passées en famille sur la Côte d'Azur, Rosemary intègre une institution religieuse, l'école du couvent de l'Assomption, dans l'ouest cossu de Londres. La mère supérieure, mère Isabelle, y applique la pédagogie de Montessori, alors en plein essor. Cette école de l'expérimentation, où chacun peut avancer à son rythme, convient à merveille à Rosemary. Elle cuisine, fait de la couture, s'occupe des plus petits, et obtient même, en 1939, un diplôme d'éducatrice auxiliaire. Les encouragements constants de Mère Isabelle lui redonnent confiance, la stabilisent. Elle semble heureuse en dépit de la pression constante exercée par ses parents. Les lettres qu'elle écrit à son père à cette époque en témoignent.
Ce régime d'Elisabeth Arden est très bien. J'ai déjà perdu 2 ou 3 kilos. Je ne mange que de la salade, un œuf le soir, de la viande une fois par jour. Je ne veux pas être grosse et je serai toute mince quand tu me verras, mon papa.
Papa, l'ambassadeur, lui, est tout entier, consacré à sa tâche. L'Europe est au bord du chaos. Depuis l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne nazie le 12 mars 1938, Joseph Kennedy défend une politique isolationniste, comme à peu près tout le monde à Washington. Il multiplie les déclarations publiques, défendant l'idée que le rôle de l'Amérique est de rester neutre, et appelle même à un accord avec Hitler. « Épargnons une guerre à nos fils, nous n'avons rien à faire dans cette Europe en ébullition », écrit-il à la Maison-Blanche. En vérité, c'est sa hantise que Joe Junior, son fils aîné, celui en qui il a placé toutes ses ambitions, à savoir devenir président des États-Unis, soit tué au champ de bataille. Ainsi, le 3 septembre 1939, lorsque l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, Kennedy renvoie immédiatement sa famille à New York, à l'exception de Rosemary, placée à l'abri au nord de Londres.
Le paquebot Washington rapatrie un important groupe de réfugiés, parmi lesquels Mme Joseph Kennedy et ses enfants.
Ma femme et moi avons livré 9 enfants au destin. Nos enfants, comme les vôtres, sont ce qu'il y a de plus important au monde.
Rosemary reste donc seule à Londres, aux côtés de son père. La semaine, elle est à l'abri chez les religieuses qui déménagent à Belmont House, une grande propriété située à 50 km de la capitale. Loin de la pression familiale, portée par l'attention de Mère Isabelle, elle ne cesse de faire des progrès. Son père, qu'elle retrouve le week-end, le remarque aussi. Dans une lettre qu'il envoie à sa femme, il écrit « Rosemary n'a jamais semblé aussi heureuse. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle reste ici définitivement. » Il ne faut plus qu'elle revienne aux États-Unis, ni pour elle-même, ni pour les autres. Oui, surtout pour les autres, car le couple est persuadé que Rosemary représente une menace pour la carrière de leur fils. À l'époque, on prête aux femmes les plus vulnérables, handicapées ou malades mentales, une sexualité incontrôlable. Nombre d'entre elles furent victimes de stérilisations forcées. Rosemary, enceinte, serait un malheur pour cette famille très catholique, où les hommes peuvent multiplier les aventures, mais où le désir des femmes est notoirement refoulé. Et puis, qui voudrait de leur fille en mariage si l'hérédité des Kennedy était remise en question? Mais la guerre met à mal les plans de Joseph Kennedy. Le 10 mai 1940 au matin, l'Allemagne envahit la Belgique et la France. Le 29 mai, la Belgique rend les armes et les Allemands menacent Paris. L'ambassadeur estime que Londres est en danger. Alors, du jour au lendemain, il expédie Rosemary à Lisbonne pour lui faire prendre le dernier avion pour les États-Unis. Elle atterrit à New York le 1er juin 1940, en robe à fleurs et chapeau à voilettes. Sa dernière apparition publique pour les 35 années à venir, car dans quelques mois, sa vie sera détruite.
Voices from a photograph laughed from your wall, screamed through your dreams. Wake up, Rosemary, and wipe your teary eyes. Rise and cross the cold, bare floor and watch the moon through frosted glass. Damn that photograph, I'll have to take it down. She hears the boats as they move down the river. She sees a dog straining hard on his leash to get away. She hears a clock and it strikes like a hammer, pounding the nails one day further in the coffin of her youth. Evenings with your mother's friends, pregnant eyes sagging chins, swollen fingertips, pour antique cups of tea. Who are you and where you been? Suspended in a weightless wind, watching trains go by from platforms in the rain. Look at the photograph, dream back last summer, dream back the lips of that traveling salesman, Mr. Jim. He smelled of miracles with stained glass whispers. You loved his laughter, you tremble beneath him once again.
Aujourd'hui, Rosemary, l'enfant sacrifié des Kennedy.
Affaires sensibles sur France Inter.
Dans l'année qui suivit son retour d'Angleterre, de curieux symptômes commencèrent à se manifester. Non seulement Rosemary régressait au lieu de progresser, mais sa nature, autrefois affectueuse, facile, devenait irritable, tendue. Elle s'énervait sous le moindre prétexte et faisait même de véritables colères.
Dans ses mémoires, Rose Kennedy se souvient du retour de sa fille aînée Rosemary après son rapatriement d'Angleterre en juin 40. Un retour à la maison qui tourne vite au cauchemar. La jeune femme, alors âgée de 21 ans, perd pied dans le tourbillon de la vie familiale. Frustrée, marginalisée, Rosemary régresse à une allure affolante. On l'a dit alors, rebelle et violente, dangereuse pour elle-même. Sa bigote de mère, elle, ne cache pas son inquiétude face au caractère séducteur de Rosemary. Ses sorties nocturnes et son intérêt pour les garçons font craindre un scandale. Il n'est pas rare que les religieuses de Sainte-Gertrude, un couvent de Washington où Rosemary vit à cette époque, appellent Rose en pleine nuit pour lui signaler que sa fille a fait le mur. Ses escapades attisent toutes les craintes, agressions, enlèvements, grossesses. Pour la matriarche, les plaisirs de la vie sont forcément dangereux. Rosemary souffre également d'être séparée de son père, restée à Londres à son poste d'ambassadeur. Plus pour Londres, d'ailleurs. Au début du mois de septembre 40, Londres croule sous les bombes. Joseph Kennedy voit son pouvoir se déliter et il finit par être rappelé aux États-Unis deux mois plus tard, comme le raconte Evan Thomas, biographe des Kennedy, dans la série documentaire Les Kennedy secrets et tragédies, réalisée par Tim Dunn.
Alors que l'Angleterre est en guerre et contre-attaque, Joseph défend toujours l'apaisement, mais parce qu'il est trop véhément, il est rappelé à Washington. Le président Roosevelt refuse l'apaisement, il veut se battre. Il n'a aucune envie qu'un conciliateur soit son ambassadeur en Grande-Bretagne. Sa carrière est terminée.
De retour aux États-Unis, Joseph Kennedy est relégué au rang de paria. Il suit désormais les événements en Europe depuis sa résidence secondaire de Palm Beach et, entre deux parties de golf, se consacre à ses affaires. Il réfléchit, cherche également une solution définitive au problème Rosemary. Alors qu'il consulte de nombreux spécialistes, il entend parler d'une nouvelle opération, encore expérimentale et prétendument révolutionnaire, la lobotomie. Mise au point en 1935 par le médecin portugais Egas Moniz, qui recevra le prix Nobel pour ses recherches, cette technique consiste à sectionner un lobe ou une portion du cerveau dans le but de traiter certains troubles mentaux ou, à défaut, en faire disparaître leurs manifestations les plus violentes. À une époque où l'on ne connaît ni anxiolytiques ni antidépresseurs, la lobotomie suscite de nombreux espoirs. Aux États-Unis, son plus fervent apôtre s'appelle Walter Freeman, neurologue et psychiatre. Malgré les avertissements des Gasmonis, qui réservaient ce genre de traitement aux plus perturbés, Freeman, lui, milite pour étendre l'usage des lobotomies à toutes les personnes qu'on souhaite calmer. On le surnomme d'ailleurs le chirurgien de l'âme. Sa clientèle est constituée à 85% de femmes, des épouses dépressives, des femmes légères ou des enfants rebelles. Et ce sont les pères ou maris qui donnent leur autorisation. durant ses 20 ans de carrière, Freeman opère des milliers de mauvaises filles, 3000 environ. Pour plus d'efficacité, il invente la méthode dite du pic à glace. Plutôt que d'ouvrir le crâne, il enfonce une aiguille par l'orbite oculaire, le lobe frontal se trouve juste derrière. L'opération dure 10 minutes à peine. Il lobotomise jusqu'à 25 femmes en une journée. Dans quelques semaines, son chemin va croiser celui de Rosemary. En Europe, la technique également fait des ébules, comme en témoigne cette archive de 1956. Interrogé par l'ORTF, le docteur suisse François Audy revient sur cette pratique.
Cette opération permet, si on l'élargit, de toucher des centres importants comme le centre de l'initiative, par exemple.
Ce qui fait qu'on peut transformer à leur insu un certain nombre de personnes.
Ah, évidemment, on peut les rendre tout à fait soumis, on peut les rendre tout à fait aimables. C'est d'ailleurs ce qui nous permet d'opérer, par exemple, certains grands malades agités.
Ouais.
On les assouplit, justement, en leur faisant disparaître toute initiative et par le fait toute agressivité. Évidemment, on est un peu impressionné lorsque l'on voit combien il est facile de rendre les gens obéissants et condescendants. Et d'autre part, de voir que cette intervention est interdite dans le pays auquel vous pensez.
Quoi, on
c'est le seul pays où la leucotomie est interdite.
On ne pratique pas la leucotomie en URSS.
Non, elle est interdite.
Aux États-Unis non plus, l'essor de la lobotomie ne va pas sans polémique. En septembre 1941, l'Association des médecins américains met en garde. Il est inconcevable qu'une technique qui détruit le fonctionnement des lobes frontaux puisse rétablir un patient dans son état normal. Walter Freeman et son associé, le neurochirurgien James Swartz, répliquent en assurant que la lobotomie ne cause aucun dommage à l'intellect. Mais admettant toutefois qu'il vaut mieux couper moins que trop dans le cerveau. Bon, Joseph Kennedy n'ignore certainement pas ces débats, mais il veut croire qu'avec Freeman, les chances de guérison sont réelles. Sans en informer Rose ou ses enfants, il décide que sa fille sera opérée aussi vite que possible. À la mi-novembre 1941, la patiente Rosemary Kennedy, 23 ans, est admise à l'hôpital universitaire George Washington. Elle restera consciente pendant toute l'opération. Freeman racontera plus tard que sa seule exigence fut qu'on épargne ses jolis cheveux. Son associé, le docteur Watts, perce alors deux trous dans la boîte crânienne de Rosemary, près des tempes. Puis, à l'aide d'un scalpel en forme de couteau à beurre, il commence à sectionner les lobes préfrontaux du cerveau. Pendant ce temps, suivant leur protocole habituel, Freeman pose des questions à sa patiente, lui demande de chanter une chanson, de compter ou de réciter l'alphabet. Et tant que ses réponses demeurent cohérentes, Watts continue de couper. Enfin, son collègue lui dit d'arrêter, parce que l'opération est une catastrophe. Rosemary n'est plus qu'une poupée de chiffon désarticulée, réduite à l'âge mental d'un petit enfant. Elle ne peut plus marcher ni parler, ses souvenirs perdus à jamais. Rosemary est transportée à Craig House, une clinique psychiatrique au nord de New York. Cet établissement de luxe à la discrétion absolue est le lieu privilégié des élites qui dissimulent ici ceux dont ils ne savent pas quoi faire. Rosemary y restera 7 ans, oubliée des siens, eux-mêmes emportés par d'autres deuils, d'autres souffrances.
Nous interrompons cette émission pour vous donner un bulletin spécial de nouvelles. Le président Roosevelt vient d'annoncer que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, à Hawaï, par air. L'attaque a porté aussi sur toutes les bases militaires et navales de l'île principale, Oahu.
Le 7 décembre 1941, contrainte par l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, l'Amérique entre en guerre. Les deux fils aînés de Kennedy s'engagent. Mais Joe Jr., celui que son père avait désigné pour être président des États-Unis, meurt au combat en 1944. 4 ans plus tard, Kathleen, 28 ans, disparaît dans un accident d'avion. À Craig House, Rosemary est tenue à l'écart des tragédies que vivent les siens, sans aucune thérapie adaptée. Elle ne recouvrera jamais la mobilité entière de ses membres et ne prononcera plus que quelques mots. Après son opération catastrophique, elle disparaît des photos de la famille. Durant les 8 ans qu'elle passe à Craig House, seul son père lui rend quelquefois visite. Dans ses missives à la famille, l'apparence toujours, elle va très bien, puis plus rien. Au début de l'été 49, Rosemary est transférée au couvent de Sainte Coletta, à Jefferson, un coin perdu du Wisconsin. Joseph Kennedy débourse des millions pour qu'elle soit installée dans un petit pavillon spécialement construit pour elle, sous la protection de plusieurs infirmières. Elle y vivra recluse jusqu'à sa mort, sans jamais revoir son père. Petite, elle lui avait écrit « Je ferai n'importe quoi pour te rendre heureux. Je déteste quand tu es déçu par moi. » Pendant la guerre, sa disparition passe inaperçue. Mais la rapide ascension de JFK place la famille sous le feu des projecteurs et la contraint à donner des explications. On l'a dit, d'abord enseignante à Sainte Coletta, puis en juillet 60, Joseph Kennedy confie au magazine Time que sa fille aînée a été victime d'une méningite spinale durant l'enfance. Il faut attendre la victoire de JFK et son entrée à la Maison-Blanche en 61 pour que s'impose la version qui prévaut encore aujourd'hui. Rosemary est née attardée mentale. Point. Pendant la campagne pour son élection, John se rend pour la première fois à Sainte Coletta. Cela faisait 21 ans qu'il n'avait pas vu sa sœur. La même année, le patriarche est victime d'un accident vasculaire qui le laisse handicapé. Son emprise touche à sa fin. Alors les langues se délient peu à peu. Eunice, la plus affectée par le drame, prend la parole et se charge de purger sa culpabilité des siens. Elle met tout en œuvre pour que son frère fasse voter des lois en faveur des personnes retardées, comme le veut l'expression à l'époque. Et déjà dans sa tête, germe l'idée d'une manifestation sportive dédiée aux handicapés. Quelques années plus tard, en 68, elle inaugure à Chicago les premiers Special Olympics, Jeux paralympiques.
Dans la Rome antique, les gladiateurs entraient dans l'arène avec ces mots. Laissez-moi gagner. Si je ne peux pas gagner, laissez-moi être courageux. Aujourd'hui, vous tous, jeunes athlètes, êtes dans l'arène. Beaucoup d'entre vous gagneront, mais plus important encore, je sais que vous serez courageux et que vous ferez honneur à vos parents et à votre pays.
Le 22 novembre 1963, Rosemary voit les images de l'assassinat de son frère John à la télé. Les infirmières qui étaient à ses côtés ce jour-là racontent qu'elle a longuement fixé l'écran, puis qu'elle a changé de chaîne. En juin 68, son frère Bobby, le troisième, est assassiné à son tour. L'année suivante, le patriarche quitte ce monde. Plus rien désormais n'entrave la parole des enfants Kennedy. Mais jamais le mot « lobotomie » ne sera prononcé. Ce n'est qu'au début des années 70 que Rosemary fait son retour dans la famille, après 30 ans d'éloignement. Elle passe désormais Noël et les vacances d'été dans la maison familiale de Yannisport. Mais que perçoit-elle alors de sa vie d'avant? De quoi se souvient-elle? On n'en sait rien. Il lui est resté de ce temps qu'une photo en noir et blanc, en robe longue, bordée de paillettes, prise à Londres au bal des débutantes. Accrochée au mur de sa chambre à Sainte Coletta, elle la contemplera jusqu'à sa mort en 2005.
Except the little fish. English, but they told me it's West, trying to talk to me. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see its rim. Spin it, yeah. Your head will collapse if there's nothing in it. And you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le destin de Rosemary Kennedy, notre invité Patrick Jeudy. Bonjour.
Bonjour.
Auteur et réalisateur du documentaire « Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?» produit par Hauteville Productions. C'était en 2018. Avant de réaliser ce film sur le destin dramatique de Rosemary, certains de vos documentaires étaient déjà consacrés à la famille Kennedy. Je vais en citer quelques-uns. On pense à « Ce que savait Jackie » en 2003, « Il n'y a pas de Kennedy heureux » en 2010, « Dallas, une journée particulière » en 2013, qui revient sur l'assassinat de JFK, bien sûr, ou encore « Bobby Kennedy, le rêve brisé de l'Amérique », ça c'était en 2017, et pour ne citer que... Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette famille d'arrivistes qui a tout de même généré deux personnages glorieux, un grand président et un ministre de la justice audacieux et courageux ?
Ah, j'ai du mal à le dire, mais en fin de compte, je préférais Nixon. Et donc, quand j'avais 10 ans, je me souviens, c'était la fameuse campagne électorale entre Nixon et Kennedy. Mm-hmm. Tous mes camarades de province, de Limoges, étaient fascinés par cet homme, Kennedy, beau, grand, fort, riche. Et moi, j'aimais bien le pauvre Nixon. Et peut-être que j'ai voulu expier cette erreur, je ne sais pas, mais je me suis intéressé au Kennedy, et j'y ai surtout vu mon petit théâtre à moi, ma Royal Shakespeare Company, c'est-à-dire que chez eux, il y a tout à prendre.
C'est vrai que c'est shakespearien.
Et pendant longtemps, j'ai tout pris, sauf Rosemary, et je confesse que ça, vraiment, la méthode de Joe avait bien marché, puisque c'est moi qui étais lobotomisé. Je ne connaissais pas Rosemary.
Je pense que beaucoup d'auditeurs ont découvert, et moi aussi d'ailleurs, ont découvert son histoire, en tout cas les détails de son histoire. C'est vrai qu'elle a disparu, qu'ils ont réussi leur coup, hein, de ce point de vue.
Oui, et puis dans le film, il n'y a pas de Kennedy heureux. Je sais que pour la version américaine, parce qu'il y a une version américaine, la seule, ils ont coupé tout ce qui avait trait à Rosemary, sans me demander, évidemment, mais ils l'ont coupé.
Ah ouais.
Donc, après, je me suis dit, les quelques 2-3 minutes que j'avais consacrées à Rosemary dans ce film-là, sur les enfants Kennedy et la malédiction, entre guillemets, des enfants Kennedy, je me suis rattrapé en m'intéressant à Rosemary.
Il n'y a pas de Kennedy heureux. Expliquez-nous ça. Alors, on le comprend quand on voit comment certains ont vécu leur vie.
C'est un joli titre que je dois à mon co-auteur du texte de ce film, qui était Gérard Miller. Ah oui. Et nous avions fait plusieurs collaborations. Et à chaque fois, on commençait par trouver un titre. Et à partir du titre, le film se déclinait.
Ça va pas être simple de s'intéresser à la vie de Rosemary dès lors qu'elle a été cachée. Donc vous avez parlé de censure, mais comment pour le reste avez-vous travaillé pour débusquer des images, des informations, explications?
Déjà en creux, je veux dire, depuis le temps, j'ai lu beaucoup de littérature et il y avait toujours quand même des allusions à Rosemary, que ce soit dans les mémoires de Rose, mais chez les biographes évidemment, et puis dans les mémoires de la famille, de Nice par exemple. Donc, je glanais des informations. Pour les images, je n'avais que cette arrivée sur le bateau à Londres, où on l'entend qui dit « Salut Jack », c'est la seule fois qu'elle parle, qu'on l'entend parler. Et puis j'ai eu de la chance, parce que j'ai commencé le film en, avec cette gageure qui était de faire un film sans images, ou très peu d'images, des photos quand même. Mais il fallait la deviner, parce que les Kennedy se ressemblent.
Oui, ils se ressemblaient. Les deux sœurs se ressemblaient.
Voilà, et une fois les images regardées à l'aune de l'histoire que je connaissais, que je commençais à connaître, je la reconnaissais. Et puis surtout, il y a eu cet apport magnifique de films d'amateurs, qui étaient les films d'amateurs de la gouvernante, Elizabeth Dunn, des films qui sont venus sur le marché très peu de temps avant mon projet, et qui l'a montré Rosemary, je dirais pas partout, mais on la voyait chez eux, on la voyait chez le pape quand la famille était allée aux obsèques d'abord du pape, et puis à la nomination du pape suivant, Pie XII, qui était un de leurs amis. Et on la voyait en Écosse, on la voyait avec ses frères et sœurs, et là, ça a été une matière formidable. Je veux dire, ça a donné un second élan au film.
Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle vous déclenche comme sentiment, comme impression à travers les photos, à travers son histoire, à travers son regard?
Quel gâchis, on pourrait se dire. Parce que la question qui se pose, c'est que était-elle si malade que ça? Je veux dire, même avant sa lobotomie, peu avant sa lobotomie, il y a des voisins qui ont témoigné parcimonieusement, parce que le clan Kennedy fait toujours peur, mais qui l'ont reçue, qui ont pris le thé avec elle. Elle était toujours polie, elle n'avait pas du tout les stigmates d'une maladie qu'elle aurait traînée, comme ça, comme une malédiction. Ça ne se voyait pas.
Donc ils auraient pu la garder en l'état.
Ils auraient pu la garder.
Elle n'aurait pas fait honte à la famille.
En revanche, vous avez souligné dans ce très beau récit, vous avez souligné la peur du père.
Ah oui.
La peur du père et de la mère, c'était que leur fille tombe enceinte. Parce que ça, il y a d'autres témoignages qui corroborent le fait que elle aimait séduire. Elle est d'ailleurs des reportages de journaux anglais l'ont montré en long et en travers, belle, magnifique dans sa robe Lucien Lelong, notamment pour la réception chez la reine, et ils avaient peur qu'elle tombe enceinte. Et c'est là où on en arrive peut-être à la nature du crime, c'est qu'on fait, parce qu'on pourrait presque parler de crime.
La lobotomie, oui.
La lobotomie. Bien sûr. On en arrive là parce que ils ont voulu la faire disparaître de peur qu'elle porte préjudice d'abord au frère aîné, celui qui est mort, et puis qui est mort tragiquement, le premier qui est mort tragiquement, et puis à Jack. Jack qui était devenu l'espoir, parce que le père Kennedy, c'est un politicien raté. Il avait tout reporté par esprit de revanche sur ses fils, à défaut de lui. Ouais. Mais il avait même envisagé de se présenter quand même comme président. Mais c'était surtout ses fils. Et certainement que la clé est là, en fin de compte. On a voulu la faire disparaître, la faire taire surtout.
C'est un crime politique dans une famille, rendez-vous compte.
Oui, oui, et puis il y a d'autres questions qui se posent.
Alors, les questions qui se posent, on va se les poser dans 2 minutes, d'accord? On écoute Pomme, qui chante 1 million, et on se pose ces questions-là.
Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu. Pleurer, c'est sale, ça fait des yeux plus gros que la ville. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas facile, non. Combien de fois j'ai retenu mes larmes? Combien de fois pour avoir l'air normal, moins 1 000 mots, 1 million. Combien de fois j'ai retenu mes larmes, combien de fois pour avoir l'air normalement mille mots, un million, une piscine, un zec, une saison de l'homme, mille mots, un million, une piscine, un zec, une saison de l'homme.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Patrick Jeudy, on a parlé à propos de la lobotomie de crimes politiques en famille, qui pose bien des questions. Et notamment une que vous mettez en avant. Enfin, en avant. Que vous ne vous interdisez pas de poser.
Oui, parce que bon, il est établi qu'on a voulu faire taire Rosemary parce qu'elle pouvait nuire à la carrière de la future carrière de son fils, qui aspirait à devenir président, évidemment. Enfin, c'est surtout le père Joe qui voulait qu'il soit président. Jack, en fin de compte, il aurait voulu être journaliste, lui. Quand on l'a désigné, il a dit « Merde, qu'est-ce qui me tombe sur la tête ?»
Ah, parce que journaliste, c'est bien quand même. Oui. Et président, c'est pas mal non plus.
Voilà, mais enfin, bon, il l'a terminé tragiquement.
Ma vie.
Mais une question se posait, donc... C'est que Joe, le père, est resté sous les bombardements pendant plus de 2 mois avec sa fille seule.
À Londres.
Et vous l'avez rappelé, Rosemary était une belle fille. Mmh. Et quand elle est arrivée d'ailleurs aux États-Unis, la mère a dit « c'est pas possible, elle a eu honte des seins de sa fille, des fesses de sa fille, puisque subitement elle a vu une femme ». Et alors certaines personnes en ont été à se demander si le père n'avait pas commis l'irréparable pendant cette période-là. Joe Kennedy, qui devait pas en être à une médisance près, mais a quand même été soupçonné d'avoir pu abuser de sa fille. Mmh. Tous les deux dans cette grande maison qu'ils partageaient le week-end, notamment, sous les bombardements.
C'est revenu aux oreilles de Roosevelt, tout ça? Ça pourrait expliquer le fait qu'il avait fait des mauvais choix stratégiques en étant plutôt proche d'Hitler. Ça, c'est le mauvais choix stratégique, en disant l'affaissement vaut mieux que la mort, oui, de plein de soldats. Est-ce que cette histoire-là aussi serait revenue aux oreilles de la Maison Blanche?
Oh, la Maison Blanche entend tout.
Ah oui.
Elle sait tout. Mmh. Cela dit, bon, le choix pro-allemand apparent de Joe Kennedy, c'était surtout, comme vous l'avez aussi rappelé, pour préserver la vie
de ses garçons.
Voilà. Et d'ailleurs, ça a failli arriver. Le premier est mort à bord d'un avion. Et le second, Jack.
En guerre de Corée.
Pas du tout. Non. Toujours pendant le conflit, la guerre 39-45.
D'accord.
Jack a été le héros du PT-119, je crois, qui était le nom d'un patrouilleur, qui a coulé. et sur lequel d'ailleurs on a fait un livre, lui-même a signé un livre où on lui a donné le beau rôle en disant qu'il avait sauvé tout son équipage un à un. Donc,
et qu'il s'en était sorti à la nage et que ses problèmes de dos viendraient de là.
Absolument, oui. Or, ses problèmes de dos, là encore, ils viennent de beaucoup de choses. Ils viennent surtout de la maladie dont il était affecté et qui le détruisait peu à peu. D'ailleurs, on disait, lorsqu'il a été élu en 60, on disait qu'il terminerait pas son mandat du fait de la maladie et non de l'assassinat.
Oui. Donc je retire ma bêtise sur la Corée, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit la Corée, hein, c'est absolument une guerre. Bon, bien, dans la famille, je demande à présent la mère, hein, Rose. Alors, dans votre documentaire, vous en faites un portrait glaçant, sans concession. On écoute un extrait.
En 1972, leur mère, Rose, publie ses mémoires. Dans ce best-seller mondial, elle ne cite jamais le prénom de sa fille.
Mentally and physically as perfect as possible. Mm. We had 8 perfectly normal children, some of them brilliant. And then we still had this child who was retarded.
Elle ne manifeste aucun remords et considère la maladie de Rosemary comme un don de Dieu, destiné à mettre son amour de mère à l'épreuve.
Voilà, Rosemary. Rose, pardon. Décidément. Il y a eu le père, mais il y a eu pire apparemment.
Oui, Rose était très religieuse, d'origine irlandaise, mais c'était aussi une coquette, une femme qui adorait s'habiller, qui était capable de faire l'aller-retour pour aller dans les défilés à Paris, chez les grands couturiers. Et puis, elle faisait attention au corps de ses enfants, à son corps. Elle se faisait, elle suivait des cures d'Elisabeth Arden ou autres. Les enfants, donc, il y avait cette obsession de la taille, de la grosseur, du poids. C'est un mot qui revient pour tous. Le poids, c'était important. Et on peut se demander s'il n'y avait pas chez elle une tentation de l'eugénisme, quand même.
Je veux dire, ça y ressemble.
Oui, cette disparition dont la mère dit qu'elle n'était pas au courant, ça aussi, c'est un mystère. La mère n'était pas au courant, une personnalité comme ça. Le silence de la mère interroge. Pour moi, le silence des enfants est pire. Le silence de Jack Kennedy.
Des frères et des sœurs. Ah oui. Des frères. Ouais.
Le seul Eunice s'en sort très bien. Eunice a été la femme courageuse de la famille. Mais que le président Kennedy, le futur président Kennedy, n'ait pas, en privé, en secret, avec ses frères, avec ses sœurs, jamais posé de questions sur ce qui était arrivé à Rosemary Kennedy, ça m'interroge.
Eh ben, parce qu'il voulait être président. Alors, il a suivi les préceptes de son père. Faut être présentable, peut-être.
Sans doute.
Bien, Patrick Jauny, merci infiniment. Arrive la fin de cette émission, de notre entretien. Merci encore. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Rosemary, l'enfant sacrifié de Kennedy. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.